au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Professeur Jacques Louis-Binet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous allez pouvoir nous donner votre avis sur l'ouvrage L'animal médecin, publié aux éditions Actes Sud, et dont l'auteur est Charles Pilet, mais il n'est pas tout seul à avoir rédigé cet ouvrage. Juste avant de commencer, je précise que vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université de Paris, Paris 6, et que vous êtes ancien chef de service d'hématologie de la Pitié-Salpêtrière, et que vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Et donc vous allez pouvoir nous parler de votre confrère et des propos qu'il a pu tenir dans ce livre.
Alors mon avis sera un peu subjectif, parce que je suis non seulement membre mais secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. Et donc j'ai eu comme président Charles Pilet. Donc j'ai eu le grand privilège de travailler avec lui. Et encore une fois, c'est un privilège. Je ne savais pas du tout qu'il préparait ce livre. Mais il fait partie des... Et ça, on l'a oublié. On croit toujours que la médecine est faite par les médecins. C'est complètement faux. Beaucoup de médecins, l'essentiel de la médecine est fait par des médecins, mais il y a beaucoup a été apporté par des non-médecins, et en particulier, et surtout par des vétérinaires.
Alors voilà, c'est tout l'objet de son livre.
Car Charles Pilet a dirigé non seulement l'École nationale d'Alfort, mais c'était un très bon immunologiste. Donc il a appris l'immunologie sur les animaux, mais cette immunologie est totalement humaine. Et c'est une tradition. Le grand professeur d'Australie, celui qui dirige toute l'immunologie australienne, et l'Australie c'est très connu parce que c'est une colonie anglaise pendant très longtemps, eh bien c'est la même chose. Il est malheureusement mort, il s'appelait Bean Morris, et il connaissait beaucoup mieux que moi l'immunologie humaine, et puis un jour il m'a dit, au fond la seule chose qui m'intéresse c'est les moutons, parce que je suis vétérinaire. Alors, Charles Pilet n'est pas intéressé que par les moutons, mais il a fait ce livre avec Nicole Priolo.
Voilà la deuxième personne qui a travaillé.
Deuxième chose. Alors, Nicole Priolo est l'attachée de presse de l'Académie de médecine et d'autres académies. Et c'est vraiment une femme qui a le sens du mot. Quand on cherche un titre à l'Académie, on sait pas très, hop, c'est elle qui le trouve. Quand on cherche quand et comment intervenir, elle a beaucoup plus que nous le sens du mode d'intervention. Et beaucoup de sous-titres du livre, je pense, viennent d'elle parce que c'est ce qu'elle fait parfaitement.
Alors, ces deux auteurs, Charles Pilet et Nicole Priolo, retracent la naissance de la médecine expérimentale.
Oui, ils font mieux. Le titre est formidable. Le titre, c'est l'animal médecin. Et je dois dire que quand, dans les histoires de la médecine, qui sont très nombreuses, très fréquentes, on parle toujours des maladies, des malades, des médecins. Les médecins, il faut qu'ils se glorifient, alors ils se glorifient beaucoup. Un peu des malades, et puis c'est tout. Et on oublie le rôle essentiel qu'ont joué les animaux, soit animal de laboratoire, sur lequel on a testé tel ou tel mécanisme ou tel traitement, soit animal qui, à l'origine d'une maladie. Vous voyez, et au fond, les animaux sont comme nous. La pathologie des animaux est la même que la nôtre. Et dans le monde de la maladie, sont nos frères. Et ça, c'est totalement oublié. Et Charles Pilet, dans son introduction, alors fait semblant que les académiciens, nous connaissons tous cette part de l'animal. C'est complètement faux. On l'avait totalement oublié. Et c'est lui le premier qui l'a écrit, qui a pris ce titre merveilleux, qui s'appelle l'animal médecin. Il remarque que dans l'escalier de l'Académie de médecine, on vaccine, c'est un tableau du 19e, qui est très laid d'ailleurs, mais on vaccine une petite jeune fille contre la variole. Et il dit, mais la seule personne importante, c'était la génisse, c'était la vache, parce que le vaccin venait de la vache. Et si on regarde l'Académie de médecine de plus près, eh bien, le bout de l'Académie, derrière, il y avait une petite cour, et quand elle était construite en 1902, c'était il y a plus d'un siècle, mais c'est pas si vieux, eh bien, il y avait une étable pour des génisses, pour qu'on puisse vacciner. Alors ça, c'est un rôle fondamental de l'animal que nous avons totalement oublié. Quelqu'un l'avait déjà prévu parce qu'il a tout prévu, c'est François Jacob. Et dans son histoire admirable de la génétique, il a montré la transformation, mais la révolution que constituait le passage des généticiens pour penser des mouches, Bon, avec la mouche, c'est gentil, mais ça n'intéresse personne, sauf les généticiens.
La mouche à la souris.
Parce que la souris, c'est un mammifère, c'est plus proche de nôtre, les gènes sont plus compliqués. Et ça, il l'avait déjà dit. Mais il l'avait dit
la
sur un part de l'animal,
sur un plan conceptuel.
Et je dois dire, alors, dans ce livre, si vous voulez.
Oui, bien sûr, mais c'est même une importance, parce que c'est pour mieux aborder après la partie des animaux de laboratoire, voilà. Un sujet très polémique.
Oui, et au fond, qu'on a...
En tout cas, qui touche quand même le public qui peut être, comment dire, sensible aux images qu'on peut véhiculer sur le traitement des animaux de laboratoire.
Alors, pour les animaux de laboratoire, il a une attitude qui est celle de tous les chercheurs actuels. C'est pas la première méthode, on commence par des cultures. C'est beaucoup plus simple de tester n'importe quoi, un mécanisme, un produit, un antibiotique sur soit des germes, soit des microbes, ou soit des cellules. Ça, c'est très simple. Et puis, il y a le passage à l'être plus élargi, qui est le passage à l'homme. Je suis médecin, seule chose qui m'intéresse, c'est l'homme. Bon, eh bien, on peut pas passer directement. Pour la posologie, pour les doses à utiliser, pour la toxicité, on est obligé d'utiliser des lots de laboratoire. Ces lots seront de plus en plus réduits, j'en suis convaincu, parce que presque tout aura été vu sur les cultures. Mais c'est une étape qu'on ne peut pas oublier. C'est une étape qu'on est obligé de franchir.
Oui, il précise qu'en plus, sur ce travail-là, il y a une législation,
alors,
on ne peut pas faire n'importe quoi.
Alors, il y a une éthique de l'animal, il y a les droits de l'animal qui sont très précisés, et il faut être vétérinaire. Les médecins s'en fichent un peu. Les vétérinaires, ils vivent avec les animaux. Ce sont eux qui ont défini avec les gens qui s'occupent des animaux, c'est-à-dire les fermiers, c'est-à-dire les gens de la campagne, les gens qui sont impliqués. À Paris, les seuls animaux sont les chiens, c'est tout à fait particulier. Et ils ont décrit ces lois, ils ont écrit ces lois éthiques et qui sont tout à fait normales, c'est-à-dire qu'on ne tue pas des animaux pour rien, parce qu'ils seront tués, ils seront morts. Non, il faut voir les choses, il faut parler franchement. Bon, mais un minimum d'animaux sont sacrifiés et ils sont indispensables. Alors, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'il montre comment les épidémies actuelles ont reposé ce problème.
Là, c'est la deuxième partie
de son
livre.
Alors, la deuxième partie est tout à fait fascinante parce que c'est ce qui intéresse tous les journaux,
actuellement, c'est quand même...
Et avec deux épidémies qui ont terrorisé, d'une façon sans doute illégitime, mais qui ont terrorisé notre petit monde occidental, c'était d'une part l'encéphalite spongiforme, ce qui s'est passé chez la vache, et puis le SRAS.
La maladie de la vache folle et le
SRAS.
Alors,
l'encéphalite spongiforme, on a vu ces images effrayantes des troupeaux qui étaient sacrifiés avec les grands feux qui étaient donnés. C'était le retour au Moyen-Âge. Et avec beaucoup de finesse, il montre que il fallait sacrifier un certain nombre d'animaux, mais à cause d'une mauvaise interprétation du principe de précaution, on en a trop sacrifié. Et eux pensaient que, à la réflexion, mais les gens étaient tellement terrorisés, les études futuristes pour savoir combien il y aurait de gens malades étaient tellement fausses, parce qu'on croyait qu'il y en aurait énormément. Je crois que le nombre de cas en France ne dépasse pas 15, et en Angleterre, où ils ont tout fait pour que la pandémie se propage, le nombre a été très réduit, puis l'épidémie, elle est arrêtée, si vous voulez. Alors là, ça a été l'affolement, qui est à la fois spectaculaire et dramatiquement spectaculaire, mais aussi effroyablement financier, puisque vous avez un fermier qui a 200 vaches, et qui voit disparaître ses vaches dans la fumée. C'est quand même absolument abominable. Et ça, c'était un modèle très particulier, c'était la contamination de la viande, et de la viande non cuite. Premier modèle. Deuxième modèle, c'est l'épidémie de SRAS qui est arrivée récemment. Alors, et il le prouve, quel est l'animal? Parce que c'est pas évident qu'une épidémie vienne de l'animal. Bon, c'est une notion actuelle, mais qui autrefois était assez méconnue. Or, c'est vrai, beaucoup d'épidémies, le sida vient de l'animal. Enfin,
oui,
beaucoup
fait,
de grandes épidémies viennent de l'animal.
Avec l'espagnol, même.
Voilà. Il a fallu beaucoup de pas de temps, parce qu'ils ont été assez rapides, pour trouver l'animal en cause. Bon, ça a été assez difficile. Et puis là, la maladie était beaucoup plus contagieuse. En plus, la contagion ne ressemble pas à celle du Moyen-Âge. Maintenant, la contagion se fait par avion. Les endroits clés sont les aéroports. Bon, c'est pas le petit endroit qu'on va rapidement boucler. C'est l'aéroport, parce qu'il y a un infirmier, une infirmière, ou un cousin, ou un parent de la malade, qui a repris son avion bêtement, ou normalement, pour rejoindre Paris, alors qu'il était en Asie, ou pour rejoindre Londres, ou pour rejoindre New York. Et là, il y a eu un travail, quand on voit la qualité des travaux qui ont été réalisés pour retrouver l'animal en cause. Il n'y avait en principe pas de traitement. Alors, on a vu quand même qu'on pouvait les traiter, que tout le monde ne mourrait pas, pour bien préciser comment venait la contagion, c'est-à-dire bien préciser les règles. Le travail était fait avec une vitesse, mais qui est impensable dans l'histoire de la médecine.
Donc tous ces thèmes sont évoqués.
Tous ces thèmes. Et là,
dans le livre, l'animal médecin.
Il y a des chapitres admirables. Et puis, autre chapitre pour gens qui sont. D'abord, ils rassurent, mais ils montrent que toute épidémie peut venir.
Mais ils ne rassurent pas pour faire plaisir, ils rassurent dans le bon sens du terme.
Ah non, c'est pas un livre pour rassurer, c'est un livre pour expliquer. Mm-hmm. Et quand on comprend. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de virus qui, soi-disant, attendent. Et sans doute qu'on ne les verra jamais apparaître. Mais ils montrent, justement, qu'est-ce qui fait qu'un virus peut muter, pas muter, qu'il peut être lui-même, l'animal peut être malade ou ne peut pas l'être, et qu'il peut transmettre ou ne pas transmettre. Et ça, dans une série de cas très précis, c'est très parfaitement décrit. Et puis, pour les gens non habitués, un glossaire, ça paraît toujours idiot les glossaires, eh bien j'en ai regardé un pour je ne sais plus quelle maladie, que je connaissais mal. Et je vous promets que ça peut servir à tout le monde. Voilà les qualités de ce livre, c'est une véritable histoire, non pas des animaux, mais de la médecine, et des animaux, non pas au service de l'homme, mais avec l'homme.
Avec l'homme.
Nous sommes liés, vous voyez, nous sommes liés, et alors d'habitude, on fait l'origine de l'homme, vient de tel ou tel animal, c'est pas intéressant.
Avez-vous...
Là, c'est l'animal actuel.
Juste pour terminer, est-ce que vous avez appris des choses
à la
lecture de son livre?
Tout d'abord, je ne sais rien.
Parce que vous êtes médecin.
C'est très facile. Oui, non, c'est très facile. Non, et puis, à cause de l'Académie de médecine, on était très quand même au courant de ces épidémies. Mais quand on les voit apparaître, notre apprentissage, on le fait au fur et à mesure des jours, avec l'aide de l'Institut Pasteur, avec l'aide des nouveautés. Eh bien là, c'est admirablement résumé. C'est-à-dire, honnêtement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et tout le monde peut apprendre des choses.
Ça reste quand même accessible au grand public.
Tout à fait. C'est simple, c'est bien écrit. Les chapitres sont très courts. Des petits titres accrocheurs, presque trop. Ça m'énervait un peu. C'est comme la couverture qui, je trouve, n'a pas le sérieux du livre.
Voilà, les auditeurs ne peuvent pas
voir. Faudra-t-il tuer tous les poulets ?
Un des titres. Hein.
Voilà, regardez ces titres. Le jour où la vache est devenue folle. Crise alimentaire. Le bestiaire de l'espoir. Et il termine sur la fontaine. Et en disant qu'il nous manque à la fontaine. C'est vrai que c'est un bestiaire, mais très particulier. C'est un bestiaire pour malades et médecins. C'est pas un bestiaire surréaliste. C'est pas un bestiaire du Moyen-Âge. Et c'est, encore une fois, une réussite totale.
Eh bien, merci, professeur Jacques Lubinet, pour cette première chronique. Je rappelle le titre du livre « L'animal médecin ».
Charles Pilet, Nicole Priolo,
aux éditions Actes Sud, publié en 2005. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, au revoir.